quand les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous allons ce soir aborder le chapitre de la voie du Bouddha qui traite de la vacuité, cœur de la compassion. Vous êtes peut-être familier avec la notion de compassion et de vacuité comme les deux pôles du Mahayana. La voie universelle avec ses deux grands pôles que sont la bonté et l'ouverture, la compassion et la vacuité, qui sont deux pôles ou deux approches ou deux expériences complémentaires et finalement concomitantes. Dans l'exergue Atisha, Jōjé Atisha, dont nous venons de réciter la formule d'entrée en refuge, dans son ouvrage célèbre, le Bodhipatta Pradipa, Atisha dit « On resterait prisonnier de l'expérience directe de la vacuité sans action d'amour » ou dans les actions d'amour, sans l'expérience directe de la vacuité. Ainsi ne faut-il délaisser ni l'une ni les autres. » Amour et vacuité sont complémentaires. Et amour sans la compréhension de la vacuité est une déviation. Compréhension de la vacuité sans amour est une autre déviation. C'est Gampopa qui dit il est deux comportements diaboliques. L'amour sans compréhension et la compréhension sans amour. Diabolique au sens de dualiste. Aussi ne faut-il délaisser ni l'un ni l'autre. Quelqu'un qui a reçu les engagements de Bodhisattva, qui s'est engagé dans la voie des Bodhisattvas, des vaillantes, des vaillants, apprend progressivement Bodhicitta relatif, l'amour et la compassion, et Bodhicitta ultime, l'expérience de la vacuité. Bodhicitta relatif, relationnel, bodhicitta, l'esprit d'éveil, l'esprit éveillé, le cœur éveillé, le cœur-esprit éveillé, dans le relatif, dans la bonté, la compassion, relationnelle, relative. Et ultimement, dans l'expérience de vacuité, ce qui a beaucoup de sens, mais particulièrement l'expérience d'ouverture sans centre ni périphérie. Et ce bodhisattva ou cette bodhisattvi, pratiquement, finalement, expérimente la conjonction de la vacuité et de la compassion. Il pratique finalement la conjonction de la vacuité et de la compassion. Les deux convergent. On peut, au départ, partir dans une dominante d'amour-compassion associée à un peu de vacuité, ou dans une dominante de vacuité, de présence ouverte avec un peu d'amour-compassion. Finalement, les deux convergent en une même expérience éveillée. L'ultime ouverture étant aussi finalement l'ultime amour. de la compassion à la vacuité. L'attitude intérieure de compassion commence, comme nous l'avons évoqué précédemment, dans les chapitres précédents, lorsque nous prenons conscience de la souffrance des personnes qui nous sont les plus proches et les plus chères. On découvre que l'on est sensible, que l'on a un cœur tendre, que l'on a un bon cœur dans les situations dans lesquelles c'est le plus facile, avec ceux qui nous sont proches, qui nous sont chers, vis-à-vis desquels on a une tendresse, un amour particulier. Puis, cette expérience de compassion dans l'entraînement et dans l'ouverture du cœur de l'entraînement se généralise progressivement jusqu'à l'amour universel. Donc, une extension, non seulement être bon envers ceux qui nous sont proches, mais avoir cette attitude de compassion envers tout un chacun, et même, et particulièrement, envers ceux vis-à-vis desquels nous avons une aversion ou une difficulté, nos ennemis. Donc, de cultiver ainsi bonté, compassion, empathie, tout englobante et en ce sens universelle. Le bodhisattva qui pratique ainsi dépasse progressivement toute attitude égocentrée et cultive un état d'esprit vraiment tourné vers autrui. Non. Moins d'égocentrisme et plus d'altruisme, tout simplement. Et en dépassant l'égocentrisme, l'on s'ouvre à une attitude altruiste, réceptive, disponible, qui a cette réceptivité, disponibilité, bonté, amour pour tous. Cet état d'esprit altruiste est bodhicitta relatif. Il consiste en le dépassement de l'ego ou du soi. Et ce dépassement de l'ego ou du soi est une pratique du non-soi, qui est vacuité. La vacuité signifie une absence de soi, une absence d'ego, c'est-à-dire aussi, dans cette absence d'ego, une absence d'égoïsme et une attitude altruiste. Donc, moins d'ego, c'est-à-dire de la vacuité, c'est de la compassion et de l'amour, en ce sens. Donc ainsi va-t-on de la compassion à la vacuité. La vacuité, le double non-soi. Alors, qu'entend-on par vacuité? D'une façon classique, l'on entend par vacuité le double non-soi, c'est-à-dire l'absence de deux types de soi, le soi sujet et le soi dans les objets. Nous allons le comprendre dans ce qui suit. En pratiquant, comme l'enseignent en détail les Écritures et les instructions de méditation, on peut arriver à la conclusion indubitable du non-soi. Il est différents types de méditation, analytique, contemplative, mais en analysant et en cherchant le soi, on entend par soi une entité, une entité autonome, intègre, indépendante. Donc, l'on cherche en soi s'il y a ainsi quelque chose de stable, d'indépendant, d'autonome. Et l'on cherche aussi dans les choses, les objets, quels qu'ils soient, s'il est une stabilité autonome, indépendante. Et de quelque façon que l'on cherche et que l'on analyse, de telles entités, entité signifiant quelque chose qui est un, dans autonome, indépendant, apparaît ne pas exister. Et l'absence ainsi d'entité indépendante amène à l'intelligence de l'interdépendance. Toutes choses sont interdépendantes. Mais cette compréhension commence par l'expérience d'absence d'existence propre du sujet. Le soi ou le moi est dépourvu d'existence intrinsèque, d'existence en soi. Hein? Si l'on se cherche, de quelque façon que l'on se cherche, on ne trouve pas en soi quelque chose qui est une existence stable, autonome, indépendante, qui soit une sorte de, on ne trouve pas d'âme ou de quoi que ce soit, qui est cette réalité indépendante, autonome. C'est le non-soi de la personne. Ce que nous nommons communément notre esprit, moi, le sujet, n'a pas de caractéristiques en termes de forme, de couleur ou de quoi que ce soit. Si l'on cherche son esprit, que trouve-t-on? C'est une méditation analytique qui est à conduire avec des instructions précises et une recherche extrêmement précise qui nécessite de véritablement faire l'investigation. On ne trouve pas quelque chose qui est, que l'on puisse caractériser comme ayant une forme, une couleur ou quoi que ce soit. Notre esprit n'est pas une chose autonome ou identifiable. Il est indéterminable et indéfinissable. Cette absence d'existence comme chose indépendante et définissable est ce que l'on nomme sa vacuité. Mais, si nous pensions que l'esprit est vide, qu'il n'est rien du tout, il nous faudrait le reconsidérer en tant que connaisseur de toutes choses et producteur de la variété de nos pensées et émotions. C'est en l'esprit que se vit la totalité de notre expérience, de tout ce que nous vivons. Il n'est rien, mais tout y apparaît. C'est ainsi, au moyen d'investigations et d'examens, qu'arrive progressivement, par l'expérience directe, immédiate, non conceptuelle, finalement, une compréhension indubitable de la nature de l'esprit et de l'absence de soi-sujet. D'autre part, les objets du monde extérieur, tout ce qui se présente à nous comme forme, saveur, sensation tactile ou comme objet de connaissance de l'esprit, donc tous les objets sensoriels, visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile et aussi les objets du mental. Tous ces objets consistent en projection de cet esprit qui est vacuité. Toutes ces expériences sensorielles sont par nature semblables à une illusion ou à un rêve. Elles sont projections, tout comme le rêve est projection de l'esprit du rêveur. Le monde onirique est une projection de l'esprit dans ses imprégnations oniriques. Toutes ces expériences consistent en l'agencement de facteurs interdépendants et sont dépourvues d'existence propre. Donc, ceci signifie que toute expérience est émergence, est l'émergence d'une expérience dans l'interconnexion de facteurs interdépendants, et en même temps que cette émergence d'interdépendance ou interdépendante est dépourvue des distances propres, des distances propres signifiant des distances indépendantes. C'est pas compliqué. Si c'est interdépendant, c'est pas indépendant. La méditation permet la conclusion certaine de l'absence d'entité autonome en tout objet de connaissance. Très important. C'est l'absence de soi-objet. Aussi bien le moi que l'autre et que toute chose sont dépourvus des distances indépendantes et sont donc interdépendantes. L'absence d'entité autonome de soi, tant dans le sujet que dans les objets, est le double non-soi, non-soi du sujet, non-soi des objets. Demeurer absorbé en son expérience et méditer la perfection de compréhension transcendante, la prajnaparamita, ou encore bodhicitta ultime. Puis, de la vacuité à la compassion. Nous avons vu de la compassion à la vacuité, puis la vacuité, et maintenant, dans l'autre sens, de la vacuité à la compassion. Tous les êtres qui n'ont pas la réalisation du sens de ce double non-soi ont été nos parents, nos proches, nos enfants. Tous parents, tous différents, comme dit le Musée de l'Homme. Nos enfants, nos parents, qui veillèrent sur nous et nous firent du bien, aveuglés par leur ignorance, ne reconnaissant pas la nature de la réalité du double non-soi, ils sont illusionnés par cette propension fondamentale qui leur fait saisir un « je » là où il n'y en a pas et appréhender comme entité autre ce qui n'en est pas une. C'est ainsi illusionné dans la dualité, saisissant un jeu là où il n'y en a pas vraiment, où il n'y a pas de jeu existant vraiment, et saisissant extérieurement des entités comme autonomes alors qu'elles ne le sont pas. Et entre les deux pôles de cette dualité sujet-objet, jeu-autre, naissent toutes les passions de l'esprit. Attraction, répulsion, indifférence, etc., sous l'emprise desquelles les êtres accomplissent d'innombrables actes nuisibles qui les font errer sans fin dans le cycle des existences, dans le cycle des états de la conscience, le samsara, et éprouver les diverses souffrances des six états d'être, les six états de la conscience. Bien qu'aucun vivant ne désire souffrir, tous accomplissent les actions nuisibles qui sont l'origine de leur souffrance. Nous aspirons tous au bonheur. Nous avons tous, tout humain, la même motivation. Et dans notre confusion ou notre ignorance, nous nous créons les causes de notre malheur dans des comportements malsains qui sont source de pathologie et de souffrance. Tous n'aspirent qu'au bonheur, mais sont incapables de l'obtenir, ignorant que sa source est la pratique des vertus. Les vertus, c'est-à-dire de ce qui est sain, saint santé. Une compréhension et une expérience profonde de cette situation paradoxale et douloureuse nous emplissent de compassion pour eux. Si l'on voit ainsi comment, dans leur illusion, les vivants se créent leur propre souffrance, cette compréhension, cette vision et source d'une profonde compassion. Cet exemple montre comment un début de compassion de la vacuité peut faire se développer une profonde compassion. Et le Bodhisattva médite sur la conjonction de la vacuité et de la compassion. Donc, la compassion qui conduit à la vacuité qui conduit à la compassion, puis simultanément, conjointement dans leur conjonction, et finalement sur la vacuité qui a pour cœur la compassion. La vacuité qui a pour cœur la compassion, c'est l'état de vacuité fondamentale, de non-dualité fondamentale, l'état non-duel, qui est aussi l'état d'empathie non-duel, et de compassion non-duel, de compassion, communion, d'union non-duel, qui est le lieu de l'amour, de la compassion la plus profonde et la plus essentielle. Méditer ainsi sur la conjonction et finalement la conjonction de la vacuité et de la compassion, puis finalement sur la vacuité qui a pour cœur la compassion, est le fondement des pratiques du Mahayana, la voie sans erreur qui conduit à l'état de Bouddha. Je vous invite à une petite pause. Et pour terminer, une histoire. Milarepa attaqué par les démons. Le grand yogi Milarepa, dans son ermitage et sa grotte, est attaqué par des démons. Il y a toutes sortes de démons. Nos passions sont des démons, nos illusions sont des démons. Un démon est ce qui nous possède. C'est pourquoi nous sommes possédés par le démon de l'ego ou par les démons, qui sont toutes les possessions qui procèdent de l'ego. Mais Milarepa était en retraite. Un jour, en rentrant dans sa grotte, il se trouva face à une horde de démons terrifiants, avec des yeux grands comme des soucoupes. Ils exhibèrent leur pouvoir, faisant trembler le sol et déployant toutes sortes de manifestations terrifiantes. Milarepa essaya différents moyens pour les chasser. Il adressa des prières à son lama Marpa. Il médita sur sa déité protectrice, il menaça les démons et tenta toutes sortes de stratagèmes. Ils se moquèrent de lui. « Ah, à en croire ton attitude, il semble qu'il ait perdu son équanimité, notre grand yogi et que nous l'ayons troublé. » Alors Milarepa se dit, « Marpalojapa, son maître, m'a enseigné que toutes les apparences sont projections de l'esprit et que la nature de celui-ci est vide et lucide, clarté ouverte. Considérer ces démons comme extérieurs et vouloir les expulser est illusion. » Réalisant alors que la nature de l'esprit ne pouvait être affectée par ces manifestations et qu'elle demeurait inchangée même devant une myriade de démons les plus terribles, il comprit les démons comme l'expression des fixations et des pensées dualistes de son esprit. Alors, dépassant ses peurs, il accepta la présence des démons et fit naître en lui à leur égard une compassion authentique. Il se dit, si ces démons veulent mon corps, je le leur offre. La vie est transitoire et il est bon que je puisse aujourd'hui faire une offrande bénéfique. Cette attitude de profonde compassion et de compréhension de la vacuité apaisa les démons et finalement, leur chef s'adressa à Milarepa. Croyant que tu avais peur de nous, nous pensions pouvoir te nuire. Mais si la pensée des démons n'apparaît jamais dans ton esprit, tu n'as nulle crainte à avoir. Et ils disparurent. Petite pause. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Om mani padme hum. Bonne soirée.